Une petite couleur de nos souvenirs de Michel Pastoureau. Wittgenstein et les couleurs du blason. Ludwig Wittgenstein, 1889-1951, est un des plus grands philosophes du XXe siècle. On ne s'en rendit compte qu'après sa mort, car beaucoup de ses travaux furent publiés à titre posthume. Ainsi, les notes qu'il avait prises à la fin de sa vie en vue d'une étude sur les rapports entre les couleurs et le langage. Elles furent réunies et éditées pour la première fois à Francfort en 1979 sous le titre « Bemerkungen über die Farben », une traduction française en a été donnée en 1983, « Remarques sur les couleurs ». Il s'agit de plusieurs ensembles de phrases et de notations formulées dans le désordre et dont certaines sont restées inachevées. En dépit de leur caractère brut ou incomplet, plusieurs des réflexions de Wittgenstein me paraissent fondamentales, spécialement celles qui touchent à la philosophie du langage. Toutes soulignent combien, pour penser la couleur, nous sommes prisonniers des mots. D'autres, en revanche, sont à mes yeux plus discutables, spécialement celles qui concernent la matérialité des couleurs ou leurs propriétés artistiques. Exemple. Ajouter du blanc à une couleur lui enlève de sa coloration. Ou bien, le noir enlève à la couleur sa force lumineuse. Il n'y a pas de noir luminescent. Kein leuchtendes Schwarz. Sur ce dernier point, rappelons comment de nombreux peintres, à commencer par Velázquez, Manet ou Soulages, savent produire des tons noirs particulièrement brillants et lumineux. D'autres observations ou formulations suscitent l'étonnement. Celle-ci par exemple. Pourquoi du noir brillant et du noir mat ne pourraient-ils pas porter des noms de couleurs différents? Wittgenstein ignore-t-il, ou feint-il d'ignorer, que c'est le cas dans plusieurs langues indo-européennes, au premier rang desquelles le latin? Tant en latin classique qu'en latin médiéval, niger désigne le noir brillant et ater le noir mat. Tout latiniste débutant, et à Vienne, Wittgenstein l'a certainement été dans les années 1900, le sait. C'est aussi le cas en moyen anglais et dans la plupart des anciennes langues germaniques. Black qualifie le noir brillant et Schwarz, rapproché de l'allemand moderne Schwarz, le noir mat. Shakespeare, dans plusieurs de ses pièces, fait encore la distinction entre ces deux termes. Une autre remarque, qui, sous la plume de Wittgenstein, prend l'aspect d'une hypothèse, me touche particulièrement. Elle est rédigée ainsi. S'il y avait une théorie de l'harmonie des couleurs, elle commencerait par quelque chose comme une division des couleurs en différents groupes et elle interdirait certains voisinages ou certains mélanges, tandis qu'elle en permettrait d'autres. Et, tout comme l'harmonie, elle ne donnerait pas de fondement à ses règles. Cet extrait de Bemerkungen über die Farben au chapitre 1.67. Sans s'en rendre compte, ou faisant semblant, Wittgenstein formule, avec d'autres mots, la règle d'emploi des couleurs héraldiques telle qu'elle existe depuis le XIIe siècle. Il est étrange que le philosophe qui est né et a grandi à Vienne, puis qui a mené une partie de ses études et de son enseignement à Cambridge, deux villes où les armoiries sont présentes partout, ne se soit pas interrogé sur les couleurs du blason ni sur leurs règles d'association, une règle à la fois contraignante et d'origine inconnue. À moins que le morceau de phrase qui nous a été conservé ne soit que l'introduction à un long développement, jamais rédigé, sur les couleurs héraldiques. Nous ne le saurons jamais. Le blason n'emploie de manière courante que six couleurs, qui portent dans la langue française des noms particuliers. Or, jaune. Argent, blanc. Gueule, rouge. Sable, noir. Azur, bleu. Et sinople, vert. On peut remarquer que ce sont les six couleurs de base de la culture européenne. Ces couleurs héraldiques sont des couleurs absolues, conceptuelles, immatérielles. Leurs nuances ne comptent pas. Dans les armoiries du roi de France, par exemple, d'azur semé de fleurs de lys d'or, le champ d'azur peut être bleu ciel, bleu moyen, bleu marine, et les fleurs de lys jaune citron, jaune orangé ou doré. Cela n'a aucune importance ni aucune signification. L'artiste est libre de traduire cet azur et cet or comme il l'entend, selon les supports sur lesquels il travaille, les techniques qu'il emploie et les préoccupations esthétiques qu'il habite. Au fil du temps, la même armoirie peut donc être représentée avec des nuances de couleurs différentes et néanmoins rester la même. Toutefois, ce n'est pas là la seule originalité des six couleurs du blason. Celles-ci se répartissent en deux groupes. Dans le premier, prennent place le blanc et le jaune. Dans le second, le rouge, le noir, le bleu et le vert. La règle fondamentale de l'emploi des couleurs interdit de juxtaposer ou de superposer, sauf pour ce qui concerne des détails sans signification, deux couleurs qui appartiennent au même groupe. Prenons le cas d'un écu dont la figure est un lion. Si le champ de cet écu est rouge, de gueule, le lion pourra être blanc, d'argent, ou jaune, d'or, mais il ne pourra être ni bleu, d'azur, ni noir, de sable, ni vert, de sinople, car le bleu, le noir et le vert appartiennent au même groupe que le rouge. Inversement, si le champ de l'écu est blanc, le lion pourra être rouge, bleu, noir ou vert, mais pas jaune. Cette règle fondamentale existe dès l'origine des armoiries et a toujours et partout été respectée. Les infractions dépassent rarement 1% des cas dans un ensemble d'armoiries données. On suppose qu'elle a été empruntée aux bannières, dont l'influence sur les premières armoiries a été considérable, et qu'elle est d'abord liée à des questions de visibilité. Les premières armoiries, toutes bichromes, sont en effet des signes visuels faits pour être vus de loin. Or, vu de loin, le rouge se distingue mieux lorsqu'il est placé sur du blanc ou sur du jaune que lorsqu'il se trouve sur du bleu, du noir ou du vert. Mais ces questions de visibilité ne suffisent pas à expliquer l'ensemble du problème. Celui-ci relève aussi de la très riche symbolique des couleurs à l'époque féodale, symbolique alors en pleine mutation. À une société nouvelle, celle qui se met en place en Europe occidentale au lendemain de l'an 1000, correspond un nouvel ordre des couleurs. Le blanc, le rouge et le noir ne sont plus les seules couleurs de base, comme c'était souvent le cas dans l'Antiquité et le Haut Moyen-Âge. Désormais, le bleu, le vert et le jaune sont promus au même rang dans la vie sociale et dans tous les codes sociaux qui s'y rattachent. La règle d'emploi des couleurs du blason, qui au fil des siècles a influencé d'autres systèmes de signes, les drapeaux, les insignes militaires et sportifs, les panneaux de signalisation, notamment ceux du code de la route, est une véritable harmonie au sens où Wittgenstein entend ce mot. Elle est à la fois grammaticale, picturale et musicale. Comment le grand philosophe, si savant en de nombreux domaines, a-t-il pu l'ignorer ?